Le Seigneur Jésus, lorsqu'il était sur terre, a eu soin de ses disciples, a eu soin de leur assurer sa présence. Il leur arrivait de se sentir seuls, peut-être au milieu de la mer, au milieu de toutes leurs difficultés. Il a su venir vers eux. Et nous savons que, alors qu'il est monté au ciel, le Seigneur a eu ce même souci de nous en nous envoyant son Esprit. Et l'envoi de l'Esprit est aussi la façon, une façon dont le Seigneur nous affirme sa présence, son soin constant de nous pour nous accompagner et nous rejoindre dans notre vie quotidienne. C'est aujourd'hui le dimanche de la Pentecôte et nous voulons méditer sur ce que signifie ce don de l'Esprit de Dieu. Nous n'allons pas lire le récit de la Pentecôte, mais j'aimerais lire deux textes qui nous disent la signification de cet envoi de l'Esprit dans le cœur de ceux qui appartiennent à Dieu. Je vous invite à lire dans 2 Corinthiens, chapitre 1, les versets 21 et 22 d'abord. 2 Corinthiens 1, versets 21 et 22. Paul parle de son ministère en faveur des chrétiens de Corinthe et d'autres. Il parle des difficultés qu'il rencontre et du soutien qu'il reçoit. Et il dit, « Celui qui nous affermit avec vous en Christ et qui nous a donné son onction, c'est Dieu. Il nous a aussi marqués de son sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'Esprit. » Et dans Éphésiens, Paul invite à une grande prière d'action de grâce, de reconnaissance à Dieu pour ce qu'il a fait pour nous en Jésus-Christ. Et il termine cette action de grâce par une référence au Saint-Esprit qui a été donné. En Christ aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis et qui constitue le gage de notre héritage en vue de la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Jusqu'ici, notre lecture. Le jour de la Pentecôte célèbre un grand cadeau. Dieu donne son esprit à un peuple appelé désormais à réunir des hommes et des femmes de toutes les nations. Dieu donne son esprit sans faire de préférence entre riches et pauvres, entre jeunes et vieux, entre hommes et femmes, entre labellisés peuple de Dieu ou jusqu'ici étrangers à la maison de Dieu. Quiconque invoque le nom du Seigneur et met sa confiance en l'œuvre de Jésus reçoit le pardon du péché, de ses péchés et le Saint-Esprit comme don de Dieu. C'est ce qu'annonce l'apôtre Pierre à la Pentecôte. Le Seigneur l'avait annoncé par les prophètes, il l'a réalisé. Et il y a là une large ouverture, très démocratique, magnifiquement généreuse du don de Dieu. Lorsque l'on médite sur le don du Saint-Esprit, on s'interroge souvent, et à juste titre, sur ce que l'Esprit veut faire pour nous, ce qu'il veut accomplir en nous. Dieu nous a fait ce don, que nous apporte-t-il ? J'aimerais ce matin orienter notre perspective à partir d'un autre angle d'approche et considérer plutôt ce que Dieu exprime en nous faisant ce don. Dieu nous a fait ce don. Que nous dit-il par là ? Que nous dit-il par là ? Cela rejaillira évidemment sur nous, sur ce que Dieu, ce que cela nous apporte, mais quel est le message de Dieu ? En nous donnant son esprit comme il l'avait promis. L'apôtre Paul a médité sur cette question et il emploie deux expressions qui sont pour lui des sujets de reconnaissance et d'émerveillement. Nous l'avons lu, « Béni soit Dieu, car étant unis à Jésus, vous avez été scellés de l'Esprit Saint qui avait été promis, cet Esprit qui constitue le gage de notre héritage. Dieu nous a donné son esprit comme on appose un sceau officiel, dit l'apôtre Paul, et nous l'a donné comme on verse un acompte. Voilà deux images qui expriment la signification que Dieu lui-même accorde à ce cadeau qu'il nous fait en nous donnant l'esprit. Et je vous invite à en saisir quelques aspects ce matin. Dieu nous a scellés de son esprit. Qu'est-ce qu'un sceau ? C'est servi beaucoup dans l'histoire de sceau. Un sceau est une sorte de tampon sur lequel figure un nom ou un emblème et que l'on imprime dans la cire ou autrefois dans de l'argile. On s'est servi de sceau pendant des siècles comme des signatures officielles. Les archéologues ont trouvé des multitudes de sceaux dans toutes les civilisations. On a même retrouvé le sceau de Baruch, le secrétaire personnel de Jérémie, qui authentifiait de cette façon ses écrits. Aujourd'hui, on utilise encore des sceaux dans certains actes notariés ou lorsque l'on appose des scellés sur des pièces à conviction. Dans un procès ou lorsque l'on appose des scellés sur certaines portes pour en interdire l'accès à certains lieux. Un sceau marque donc ce côté très particulier. Voilà pour des questions un peu techniques. Mais quelle signification attache-t-on à un sceau ? Qu'exprime-t-on lorsque l'on scelle quelque chose ? Le sceau est d'abord une façon d'exprimer une appartenance. Sceller un objet, cela permettait de dire que l'on était propriétaire de cet objet. Bien sûr, on ne scellait que des objets auxquels on tenait. C'est donc une appartenance forte à laquelle on accordait une valeur, se marquait par un sceau. Il arrivait aussi que des personnes puissent être marquées d'un sceau. L'esclave était ainsi marqué parfois, certains au fer rouge, d'autres à l'aide d'un tatouage, à l'encre indélébile sur leurs mains, sur leur front. Et s'ils s'échappaient, si on les rencontrait, on savait à qui ils appartenaient. Il arrivait aussi que les partisans d'une divinité fassent tatouer le nom de leur Dieu, savaient alors à qui ils étaient particulièrement dévoués, parce qu'ils étaient scellés, une marque d'appartenance. Comment envisager cette appartenance lorsqu'il est dit que nous avons été scellés du Saint-Esprit ? Nous avons parlé de l'esclave qui était scellé, marqué d'un sceau. Paul, dans le texte que nous avons lu, parle, lui, d'un sceau qui atteste la libération d'un esclavage. Le sceau de l'esprit concerne ceux qui bénéficient de la rédemption, nous dit-il, c'est-à-dire d'une libération de l'esclavage, de nos fautes, de nos péchés, de notre condamnation, grâce au paiement d'un prix. Autrement dit, le sceau de Dieu témoigne d'une libération. Il concerne celles et ceux que Dieu, de la sorte, s'est acquis. C'est ce que Paul nous dit dans Éphésiens 1, 14. La rédemption de ceux que Dieu s'est acquis. Et ce mot, lui aussi, est très parlant. Il rappelle que nous n'avons pas toujours appartenu au Seigneur et que nous n'appartenons pas au Seigneur de nature. Il a fallu une initiative, un geste de sa part pour que nous devenions siens. Mais il ne s'agit pas d'une appartenance servile, il s'agit plutôt d'une relation privilégiée. Vous m'appartiendrez en propre, disait le Seigneur au peuple d'Israël, entre tous les peuples. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Et partout, la Bible chante cette appartenance comme une grâce, comme un don. Immérité. Le sceau, donc, une appartenance, mais qu'exprime de particulier le fait que ce soit le Saint-Esprit qui marque cette appartenance. On pourrait imaginer un autre genre de sceau, une marque sur le corps ou un rite obligatoire. Les Juifs avaient la circoncision. Le sceau de l'appartenance à Dieu dans le Nouveau Testament, c'est le Saint-Esprit. C'est le fait que le Seigneur lui-même vienne à nous et fasse son habitation dans notre vie. L'Esprit de Dieu habite en vous, nous dit l'apôtre Paul. L'Esprit de Dieu habite en vous. Le Seigneur nous rejoint et c'est ainsi qu'il marque notre appartenance. Et l'on reprend ce que l'on a lu tout à l'heure, le fait que le Seigneur vienne à nous dans notre barque, c'est cela qui marque notre appartenance au Seigneur. Si quelqu'un m'aime, dit le Seigneur Jésus, mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Et il précise, ce consolateur, il sera éternellement avec vous. Comment Dieu marque-t-il que nous lui appartenons ? D'abord en nous délivrant par la rédemption, ensuite en venant lui-même faire sa demeure en nous, en nous accompagnant vraiment de l'intérieur. Si je cherche la marque de mon appartenance à Dieu, c'est dans le fait qu'il est toujours là, c'est dans le fait qu'il est toujours proche, c'est dans le fait qu'il est toujours présent, qu'il est toujours attentif, qu'il est toujours à l'œuvre en moi et pour moi. Voilà la façon dont Dieu a choisi de manifester que nous lui appartenons, dans un engagement. Ceci dit, si nous disons cela, il faut bien rappeler que nous sommes scellés du Saint-Esprit. Autrement dit, ce choix que Dieu fait de venir vers nous demande que nous-mêmes, nous nous considérions comme appartenant au Seigneur. Et que vraiment nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. C'est ce que Paul souligne aussi en disant, « Oui, vous êtes le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu, et en conséquence, vous ne vous appartenez plus à vous-même. » Le mouvement ne peut pas être à sens unique. Dieu nous accorde une pleine attention, une pleine présence. Il demande que nous lui accordions aussi la place qu'il mérite, si nous voulons honorer ce don et en découvrir toute la richesse. Le sceau, donc, une appartenance. Mais le sceau n'est pas simplement un signe d'appartenance. Il est aussi une marque d'authentification. Apposer son sceau sur un document, c'était certifier qu'il était authentique. On emploie aujourd'hui dans ce sens les labels qui garantissent l'origine d'un produit. Et c'est vrai qu'on a retrouvé bien des documents anciens qui étaient ainsi certifiés par un sceau. Et il s'agissait d'un certificat d'une très grande force. Jésus a utilisé cette image du sceau pour lui-même dans ce même sens. Il se décrit comme étant lui-même marqué de son sceau par le Père. Le Père approuve le ministère de Jésus, le Père authentifie qu'il est bien le Fils, envoyé par lui et digne de confiance. Et Paul dira pareillement des chrétiens de Corinthe qu'ils sont le sceau de son ministère. L'œuvre du Christ en eux, les fruits qu'ils portent, authentifient son ministère. Dans l'Ancien Testament, c'était une marque extérieure sur le corps qui authentifiait un membre du peuple de Dieu, la circoncision. Dans la Nouvelle Alliance, nous sommes scellés par l'Esprit de Dieu. Dieu authentifie notre identité de chrétien par ce don. Comment rendre compte de cela ? C'est d'abord parce que tout chrétien reçoit le Saint-Esprit. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas, dit Paul. Et c'est une formule négative qu'il emploie pour dire que sans exception, tous ceux qui appartiennent au Christ ont le Saint-Esprit. C'est donc bien une marque spécifique de l'appartenance à Dieu. Mais comment cela se manifeste-t-il ? Jésus a pu parler en ce qui le concernait du témoignage de ses œuvres, confirme celui du Père et celui des Écritures. Et c'est ainsi qu'il peut se déclarer marqué du sceau du Père. Il me semble que pareillement, partout où nous découvrons en nous un fruit de la vie nouvelle qui est produit, non par nous-mêmes, mais par l'action de Dieu, nous pouvons dire, oui, assurément, le Seigneur authentifie par son esprit que je suis bien à lui. La marque, le label de son œuvre authentique, c'est le fruit d'une vie nouvelle en nous, en accord avec ce qu'affirment les Écritures. Cela veut dire que je peux me réjouir et je peux prendre assurance à chaque fois, à chaque endroit où je découvre en moi l'action de Dieu. Je peux me réjouir et prendre assurance lorsque je progresse dans un domaine ou dans un autre. Je peux me réjouir, je peux prendre assurance lorsque je me découvre des forces que je n'aurais jamais eues moi-même et par moi-même. Lorsque j'éprouve une paix que je n'aurais jamais eue par moi-même. Lorsque j'ai des victoires que je n'aurais jamais pu avoir par moi-même, que j'ai des aspirations à une vie sainte que je n'aurais jamais par moi-même. Dieu, par ses formes de son action, authentifie que nous lui appartenons. Nous nous demandons parfois, est-ce que je peux être sûr que j'appartiens à Dieu ? Là où je découvre que Dieu agit dans ma vie, c'est une façon dont il authentifie que je lui appartiens. Il y a là une marque de son action, une marque de son sceau, une marque de l'appartenance qui est la nôtre au Seigneur. Cela veut dire qu'un progrès dans notre chrétienne est plus qu'une victoire ponctuelle sur nous-mêmes, c'est aussi un signe qui atteste un peu plus que nous sommes marqués, que nous sommes scellés par l'Esprit de Dieu, que nous appartenons vraiment au Seigneur qui agit dans nos vies. Ça nous invite bien sûr à chercher encore plus la sainteté, mais aussi à nous réjouir, à prendre assurance à chaque fois que nous voyons Dieu faire quelque chose en nous. C'est une façon dont il authentifie notre appartenance à lui. Bien sûr, ça ne pourra jamais devenir un oreiller de paresse. Je suis scellé du Saint-Esprit, tout va bien. Si le Seigneur s'engage comme ça pour nous, s'atteste en marquant que nous lui appartenons, nous devons bien sûr lui faire honneur. Nous portons à tout moment cette marque de notre appartenance à Dieu. Nous ne pouvons pas y échapper. Il est important que notre vie puisse vraiment le traduire alors, être vraiment à la hauteur de cela. Avoir des comportements, avoir une manière d'être qui honore vraiment le fait que nous appartenons au Seigneur. À tout moment, nous restons marqués par l'Esprit Saint qui est présent avec nous. Il nous aide donc à vraiment le manifester de plus en plus, de mieux en mieux, honorer vraiment cette appartenance. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption, nous demande l'apôtre Paul également. Une appartenance, nous réjouir vraiment de cette authentification que nous appartenons au Seigneur. Troisième regard, si le sceau est une marque d'appartenance, une marque d'authentification, il est aussi une marque de protection. Un document scellé ne pouvait pas être ouvert par n'importe qui. La bulle d'argile ou de cire assurait sa protection à la façon de nos scellés actuels. Et le Seigneur, en nous donnant son esprit, en nous scellant de son esprit, nous montre aussi qu'il nous protège. Alors beaucoup ont une conception assez superstitieuse de cette idée de la protection de Dieu. Certains juifs, au temps de Jésus, avait des amulettes sur lesquelles était marqué « sceau de Dieu ». Et c'était censé avoir une sorte de pouvoir de protection en elle-même. Il s'agit là de quelque chose qui est bien plus proche de la superstition. Mais par l'image du sceau, Dieu nous affirme qu'il nous protège lui-même. Et cette idée de la protection de Dieu revient assez souvent dans la Bible. Lorsque Caïn est condamné à errer sur la terre, Dieu lui met une marque pour que personne ne le tue. C'est une protection que Dieu lui donne. Plus tard, lors de l'Exode, les Israélites ont mis le sang de l'agneau de la Pâque sur les portes de leur maison. Et cette marque leur a permis d'être protégés de la mort des premiers-nés qui atteignaient toute l'Égypte. Bien plus tard, dans l'histoire du peuple de Dieu, Ézéchiel a une vision du jugement des idolâtres de Jérusalem. Mais juste avant ce jugement, un homme est chargé de marquer d'une lettre les personnes qui se repentent de l'idolâtrie de la ville. Ces personnes-là seront épargnées du jugement. Cette image est reprise dans l'Apocalypse, dans une vision où un ange vient apposer le sceau de Dieu sur le front de tous les serviteurs de Dieu. Et de ce fait, ils seront épargnés du jugement, malgré tous les jugements qui touchent la terre, ce chapitre 7 du livre de l'Apocalypse. Ils sont préservés par le Seigneur pour le salut, même s'ils doivent passer par la persécution et connaître l'hostilité des hommes. Et la fin de ce chapitre 7 d'Apocalypse, qui parle de ce sceau reçu par tous ceux qui appartiennent au Seigneur, qui sont fidèles, qui sont donc épargnés du jugement, elle décrit tous ceux qui ont passé quand même par la grande tribulation, qui ont enduré la persécution, mais qui se trouvent désormais devant le trône de Dieu. Et qu'est-il dit de ces personnes ? Le Seigneur dresse sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim ni soif. Le soleil ne les frappera plus. L'agneau qui est au milieu du trône les fera paître et les conduira aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. C'est le message de Jean à ses frères et sœurs qui connaissent la tourmente au moment où il écrit l'Apocalypse, au moment où il reçoit cette vision. Vous avez été marqués d'un sceau que rien ne peut briser. Et ce sceau vous garantit que vraiment le Seigneur vous accueillera dans sa tente. Il vous conduira éternellement auprès des sources de la vie. Le texte d'Éphésiens 4 que nous avons lu confirme cette idée de protection. Nous avons été scellés du Saint-Esprit, dit l'apôtre Paul, pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis. Rien ne pourra briser cette appartenance, cette fidélité de Dieu et le don du salut éternel qui s'y rattache. Le don du Saint-Esprit s'inscrit dans la perspective où Jésus reviendra pour accomplir notre rédemption totale. Et il nous dit cette protection. Nous savons que parce que nous sommes au bénéfice de l'heure du Christ et scellés de l'Esprit Saint, de la présence même de Dieu, cette marque d'authentification, nous savons que nous serons préservés de toute forme de jugement. Si, bien sûr, nous avons mis notre confiance en Dieu, en Christ, pour être sauvés, car c'est la condition pour être scellés du Saint-Esprit. Et c'est ici, en pensant à ce que Dieu va faire et en pensant à notre rédemption totale, qu'une autre image prend le relais. C'est l'apôtre Paul. L'Esprit qui est le sceau de Dieu est aussi le gage de notre héritage. C'est ce que nous dit l'apôtre Paul. Deux fois, l'apôtre Paul associe les deux images du sceau et du gage. Éphésiens 1, verset 13, nous l'avons lu, « Vous avez été scellés du Saint-Esprit, qui est aussi le gage de votre héritage. » Dans 2 Corinthiens 1, verset 22, « Dieu nous a marqués de son sceau et a mis en nos cœurs les arts de l'esprit. » Précision, quand il est question des arts de l'esprit, ça ne veut pas dire une première part du Saint-Esprit en attendant une part plus grande. L'Esprit de Dieu ne se divise pas en parts. Le texte d'Éphésiens dit bien que c'est l'Esprit lui-même qui constitue les arts ou qui constitue le gage de la suite de ce que Dieu tient en réserve pour nous et que Paul appelle notre héritage. L'image des arts n'est autre que celle d'un acompte. Vous savez ce que ça représente, vous avez certainement déjà fait ça. Verser un acompte, quand on verse un acompte, on verse une partie de l'argent pour garantir qu'on va verser le reste. Lorsque vous versez un acompte, c'est une manière forte de dire que vous vous engagez pour aller plus loin. Et du côté de Dieu, le don du Saint-Esprit n'est pas juste un cadeau qu'il nous a fait. Certes, c'est un grand cadeau que d'avoir cette présence constante du Seigneur avec nous, cette marque de notre appartenance, cette authentification que nous sommes à lui, cette protection du jugement. C'est un grand cadeau. Mais ce n'est pas simplement un cadeau qui nous est fait, car ce don a pour le Seigneur une valeur d'engagement. Il a une valeur d'engagement. C'est ce qu'on dit en disant que l'Esprit nous est donné comme un gage de notre héritage. Il se lie déjà à nous, ce n'est pas pour nous lâcher. Il habite déjà en nous, ce n'est pas pour déménager ou laisser la maison à l'abandon. Son projet est d'habiter éternellement au milieu de son peuple racheté. Son projet est d'être lui-même pour toujours le temple de la nouvelle Jérusalem. Et c'est parce que le Seigneur a ce projet global, ce projet éternel, que déjà il habite en nous et que déjà il fait aujourd'hui de nous son temple. Vous voyez, parler de cette façon-là, c'est cela la logique d'un acompte. On ne verse jamais un acompte sans un projet plus grand que l'acompte. Si vous versez 10% du prix d'une maison, c'est parce que vous visez la maison tout entière. Et sans viser la maison tout entière, jamais on ne verse les 10%. Sans le grand projet, on ne fait jamais d'acompte. Si le Seigneur nous donne l'Esprit Saint aujourd'hui comme gage de notre héritage, c'est parce qu'il a le grand projet de l'héritage et qu'il nous en donne déjà un acompte. Cette perspective de l'acompte est très parlante du point de vue de Dieu. Elle nous dit que ce qu'il a en vue pour nous est bien plus grand que ce que nous vivons aujourd'hui. Elle nous assure que son grand projet, son projet éternel, est constamment devant ses yeux lorsqu'il agit envers nous aujourd'hui. Il n'attend que cela, ce grand projet éternel. Il ne vise que cela. Comme lorsque nous versons un acompte, nous n'attendons qu'une chose, la réalisation finale de ce pourquoi nous avons versé l'acompte. L'acompte n'a de sens qu'en fonction du projet final. Et si l'Esprit de Dieu est l'acompte de notre héritage, cela veut dire que Dieu ne sera satisfait que lorsqu'il nous fera bénéficier de tout l'héritage qu'il a en vue pour nous. Il ne vise pas moins que cela, il ne vise rien d'autre que cela. À vrai dire, il l'a déjà devant les yeux, lui qui connaît toutes choses. Ici, il y a une différence de perspective entre les prémices et l'acompte. Dans les deux cas, il s'agit chaque fois d'une partie en face d'un tout. Et quand on parle des prémices de quelque chose, les prémices d'une récolte, par exemple, ce sont les premiers fruits de cette récolte. Et c'est à partir de ces premiers fruits qu'on imagine la suite. Quand on parle d'acompte, c'est l'inverse. Le regard part de la fin. C'est parce qu'on vise de quelque chose de plus grand que déjà on verse un acompte. Et du côté de l'espérance chrétienne, nous sommes appelés à avoir les deux regards. D'un côté, nous pouvons partir de ce que nous vivons déjà et dire que c'est un avant-goût de ce qui viendra après, mais en plus grand. Ça, c'est la logique des prémices. Mais nous devons aussi nous dire que tout ce que Dieu nous donne aujourd'hui n'est qu'un à-compte de ce qu'il vise réellement. Et ce qu'il vise réellement, ce qu'il vise ultimement, c'est la nouvelle création, libérée du mal et de la mort. C'est un monde nouveau où la justice habitera, où le loup vivra avec l'agneau et où Dieu lui-même sera le soleil et le temple de son peuple, inondé de sa lumière et de sa présence pour l'éternité. Un regard qui inclut le projet global. Et tout ce que nous pouvons vivre et expérimenter de l'action de Dieu en nous aujourd'hui n'est qu'une anticipation de ce que Dieu vise de plus grand pour nous. C'est ainsi que souvent Paul s'exprime. Il part de la fin pour venir vers ce que nous vivons aujourd'hui. Si quelqu'un est en Christ, dit-il, c'est une nouvelle création. Comment dire, c'est un acompte, c'est une annonce de ce que sera le grand projet de Dieu. C'est à la fois modeste et magnifique, comme la naissance d'un enfant, et ça s'inscrit dans un projet plus grand. Et ce n'est pas une simple vue de l'esprit que de parler ainsi, car la résurrection de Jésus est venue attester dans notre histoire que ce monde nouveau que Dieu veut créer, il le fait advenir, il l'a déjà manifesté. Il en a réalisé des conditions lorsque le Christ a pris sur lui le prix du pardon de nos fautes et lorsqu'il a manifesté le triomphe de sa vie sur la mort. Apprenons donc nous aussi à intégrer le projet global de Dieu dans notre perspective d'aujourd'hui. Le Seigneur ne nous appelle pas simplement à vivre et à accepter la vie présente avec ses joies, ses difficultés. Il a beaucoup plus en réserve pour nous. Il a un plan beaucoup plus global et voudrait que nous nous en réjouissions et que cette perspective oriente aussi nos choix, nos priorités. Il voudrait que nous nous souvenions en tout cas qu'en ce qui le concerne, il n'a qu'un projet, voir toute chose participer à la louange de sa gloire. C'est ce que Paul nous dit dans Éphésiens 1. Voir toute chose participer à la louange de sa gloire. Une gloire généreuse, une gloire magnifique, une gloire bienfaisante, une gloire éternelle. Certes, aujourd'hui, à bien des égards, nous gémissons encore. Nous soupirons au cœur d'un monde plein d'injustice, plein d'horreur, et notre actualité nous le dit, nous le rappelle encore. Notre actualité ne cesse de nous faire prier et crier parfois, mais que ton règne vienne. Et souvenons-nous que le projet de Dieu demeure. Et le Seigneur est à la hauteur de ce projet. Il nous l'a prouvé en Jésus-Christ. Et il veut aujourd'hui encore, là où nous sommes, dans ce que nous vivons, nous rejoindre constamment, que ce soit dans notre barque, que ce soit en faisant sa demeure en nous. Il nous invite à nous appuyer sur lui aussi, dans une attitude active, au service de l'Évangile, au service de notre prochain, au service de ce qui est juste et avec les ressources de son esprit. Ainsi donc, puisque nous avons été scellés du Saint-Esprit, et parce que cet Esprit est le gage de ce grand projet de Dieu pour nous, ainsi donc, tenons ferme, soyons inébranlables, travaillons de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, en sachant que notre œuvre ne sera pas vaine dans le Seigneur. Amen.